Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Rarement campagne électorale n'aura autant été dominée par le contexte international que celle qui se déroule actuellement en France. Il y a bien sûr la crise russo-ukrainienne, mais également cette prise de conscience de l'imbrication entre la politique intérieure et la politique étrangère. Et à quelques semaines de l'élection présidentielle, les débats sont particulièrement durs sur la politique étrangère du président désormais candidat qui annonçait le 17 février dernier le retrait du Mali du contingent français. En dépit de son activisme diplomatique, Emmanuel Macron n'est pas parvenu à la désescalade tant espérée dans le dossier de la crise russo-ukrainienne. Aux yeux d'une partie de l'opposition, la trahison de Vladimir Poutine a beau être choquante, elle serait la traduction de la bérésina diplomatique du chef de l'État, par ailleurs accusé de candeur. Reste que l'opposition n'en est pas moins privée d'arguments réellement cinglants dans cette crise, elle qui s'est montrée pour le moins complaisante envers le régime russe, qu'il s'agisse de l'extrême droite, d'une partie de la gauche ou encore du parti Les Républicains avec Valérie Pécresse. Regard sur la France dans le monde et ce qui attend le prochain quinquennat avec nos invités. Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po, auteur d'une trentaine d'ouvrages. Le dernier, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, paru chez Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Marc Andevelde, journaliste d'investigation, auteur de L'Emprise, la France sous influence, paru aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
On assiste à des bouleversements géopolitiques en cascade. L'invasion russe de l'Ukraine rebat en profondeur les cartes sur la scène internationale. Mais la Russie n'est pas si isolée que cela, contrairement à ce que l'on entend. Le Sud s'est plutôt pas mal abstenu à l'ONU, se refusant à condamner la Russie. C'est le cas de beaucoup de pays africains, d'un certain nombre de pays en Asie. La Chine, bien sûr, l'Inde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam. Et au Moyen-Orient, l'Algérie, l'Iran et l'Irak, et également en Amérique latine. On a vu le Brésil et le Mexique voter la résolution, mais non sans critiquer les sanctions. Alors, les pays qui se sont abstenus comptent pour à peu près la moitié, finalement, de la population mondiale. La France, elle, a condamné l'invasion russe, mais Paris maintient le contact avec Moscou, notamment la demande du président ukrainien. Le président français s'était rendu le 7 février au Kremlin pour essayer de convaincre Vladimir Poutine de ne pas passer à l'acte. Emmanuel Macron y est allé en tant que membre du format Normandie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, également d'unique puissance nucléaire au sein de l'Union européenne. La France souhaite jouer un rôle important dans la prochaine phase des relations internationales, d'où la volonté d'Emmanuel Macron de ne fermer aucune porte. Alors, entre souhaiter et pouvoir, il y a un fossé. Le président a-t-il, Bertrand Badie, surestimé sa capacité de persuasion sur un officier du KGB durci et engagé dans une fuite en avant?
Je crois que le président de la République a d'abord fait ce qu'il fallait faire, il faut savoir le reconnaître, c'est-à-dire maintenir la fonction diplomatique dans une situation de crise. Vous savez, l'histoire des relations internationales, ce n'est pas la succession de phases diplomatiques et de phases militaires. C'est les deux qui s'imbriquent, qui se combinent. Même pendant les deux guerres mondiales, le contact n'était jamais coupé entre les belligérants. Et c'est très bien ainsi. Que le président de la République l'ait compris, je pense que c'est plutôt à mettre à son crédit. La vraie question, cependant, qu'il y a derrière celle que vous me posez, c'est que peut faire un pays comme la France? Et là, les choses sont beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire, il y a une vieille histoire qui, sans faire un cours académique, remonte au XVIIe siècle. Lorsque a été inventé un système international moderne, et la France était au centre de cette invention. Elle est en quelque sorte le légataire de ce temps international ancien. Et elle en a toujours gardé la certitude qu'elle était au centre du monde, qu'elle était nécessaire à la définition de tout jeu international et qu'elle incarnait une puissance permanente. Et de ce point de vue-là, la référence constante au siège de membre permanent du Conseil de sécurité est tout à fait symbolique. Ça, je crois que aucun des présidents français, aucun des présidents de la Ve République n'a compris que ce n'était plus l'image exacte du jeu mondial. Alors, pourquoi ? Pour trois raisons que j'énonce brièvement. La première, c'est parce que, entre-temps, est passé un processus de mondialisation. qui a complètement changé l'ordre des choses. Le deuxième, c'est parce que la puissance, aujourd'hui, n'a pas la même signification qu'hier. Et M. Poutine s'en rend compte à ses dépens, c'est-à-dire que l'arithmétique qui voulait que le plus fort l'emporte par une bataille décisive sur le terrain des affrontements ne fonctionne plus. Et troisième élément, parce que il y a maintenant un Sud. Alors, vous parliez tout à l'heure, et ça c'est très important, ça n'a pas été souligné suffisamment. Vous disiez tout à l'heure, la Russie n'est pas si isolée que ça. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. Moi, je dirais quand même que pour n'avoir été suivi que par 4 membres de l'Assemblée générale des Nations unies, et lesquels ? Biélorussie, Corée du Nord, Érythrée et Syrie, je pense qu'il y a un isolement réel. Et je pense qu'il faut prendre l'abstention, qui est peut-être un des paramètres nouveaux et fondamentaux du jeu international actuel, pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire non pas de l'équidistance, mais une exaspération qui s'est cristallisée au Sud depuis un certain temps, consistant à dire aux vieilles puissances, et la Russie est une vieille puissance comme la France d'ailleurs, vous prétendez tout régenter du monde, et finalement, de vos conflits, de vos incapacités, de vos impasses, c'est nous qui payons la facture. C'est le Sud qui paye la facture de l'incapacité de se définir par rapport aux enjeux de sécurité globale. Par exemple, le changement climatique, dont le Sud est le principal naufragé. C'est le Sud qui va payer la note et du Covid et du conflit ukrainien à cause du renchérissement du prix de l'énergie et du prix des denrées de première nécessité. Et il y a une exaspération parfaitement exprimée par un monsieur qui n'est pas un extrémiste, qui est le président en fonction de l'Union africaine, président du Sénégal, Macky Sall. Et ça a surpris tout le monde. Ah, le Sénégal s'abstient, ne vote pas avec la France. Ça, c'est un vieux réflexe, n'est-ce pas ? Pourquoi le Sénégal devrait voter systématiquement avec la France ? Mais la France le pense comme ça. Eh bien, ça, c'est l'image de la mondialisation aujourd'hui. Moi, j'avais écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelait « Quand le Sud réinvente le monde ». C'est une part de réinvention et qui montre que finalement, nous sommes aujourd'hui dans un jeu systémique et non dans un jeu relationnel. Un jeu relationnel, c'est le rapport de force. Le rapport de force va faire que la Russie l'emportera sur l'Ukraine et qu'une coalition d'occidentaux donnera raison à la Russie. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un jeu systémique et ce jeu systémique implique ce que j'appellerais une diplomatie peut-être plus modeste, plus effacée, moins tonitruante, moins mégaphonique et qui sache enfin prendre les problèmes du monde comme n'étant pas celui d'un pays ou d'un bloc, mais comme étant celui du système international tout entier. Ça, les Européens, les Occidentaux, et quand je dis les Européens, c'est autant les Russes que les pays d'Europe de l'Ouest, ne le comprennent pas.
Alors, diplomatie moins tonitruante. Marc Canvel, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce stade, à ce que a dit Bertrand Badi sur la question du conflit russo-ukrainien, l'impact international. Après ça, on recentra le propos sur le bilan et la place de la France dans le monde. Marc Canvel.
Je partage dans les grandes lignes tout ce qu'a dit Bertrand Badi. La question qui est posée, d'ailleurs, à travers mon ouvrage également, c'est est-ce que la France et Emmanuel Macron ont-ils encore les moyens de leurs ambitions au niveau international ? Vous parliez d'une diplomatie qui serait nécessaire d'être moins tonitruante. On peut dire qu'Emmanuel Macron, pour le coup, pêche par le fait qu'il soit un homme de son temps également, c'est-à-dire un homme de médias, d'images. Et donc, sa diplomatie est passée énormément par des coups de communication et d'images. Et qui parfois s'éloigne un peu d'une diplomatie patiente, de dialogue, et également cherchant des partenaires de même puissance par rapport à la France. Il a cru, Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé président de la République, qu'il pouvait parler d'égal à égal avec certaines superpuissances comme les États-Unis ou même la Chine, alors que la France est aujourd'hui quand même un petit pays. Et donc, sur le dossier russe, oui, bien évidemment qu'il maintient le dialogue diplomatique avec Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs une intuition qu'il a eue dès le début de son quinquennat, de développer un dialogue bilatéral avec Vladimir Poutine. Ça a été critiqué d'ailleurs diplomatiquement, au Quai d'Orsay par certains. Moi, ce que je démontre à travers l'enquête, c'est que ce dialogue a parfois abouti à certaines impasses, qu'Emmanuel Macron a parfois pratiquer le en même temps diplomatique vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la Russie. Ce qui fait qu'il n'a pas forcément été pris au sérieux par Vladimir Poutine et les Russes au moment du temps diplomatique, c'est-à-dire avant la crise militaire en Ukraine. Et aujourd'hui, même s'il tend énormément la main à l'égard de Poutine d'une certaine manière et développe un dialogue, on peut se demander si ce dialogue-là sera efficace par rapport à d'autres initiatives diplomatiques. Je pense par exemple, là, tout récemment, à l'initiative du Premier ministre israélien Bennett ou l'initiative allemande également. Et là, il y a aussi quelque chose qui est important du point de vue européen et du point de vue français, c'est que la grande nouveauté par rapport à il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'est que la France n'est plus toute seule dans son dialogue entre l'Europe et la Russie. Et justement, que ça soit sous la gouvernance d'Angela Merkel ou même après, mais surtout sous Merkel, Poutine a plutôt privilégié le dialogue finalement avec Merkel. Il l'a davantage prise au sérieux sur plusieurs paramètres. Et ça, les Français ont eu tendance à l'oublier, mais ça explique aussi la France plutôt parfois plus inférieure en termes de puissance au niveau du système mondial, mais également au niveau européen. Le bilan d'Emmanuel Macron a souvent eu comme conséquence, son action, d'une France finalement plutôt isolée par rapport à ses partenaires européens. C'est aussi un élément important à prendre en compte dans la crise.
Alors, une France isolée par rapport aux partenaires européens, ce qui sera intéressant, c'est de voir finalement ce que, au bénéfice tragiquement, bien sûr, de cette crise russo-ukrainienne, précisément, on ne voit pas les pays de l'Union européenne se rassembler. Alors, il y a beaucoup d'éléments, et sur la notion de puissance, parce que vous l'évoquez bien sûr dans votre ouvrage, Marc Andevelde, la question de puissance sans une économie forte, et vous le dites, il y a une guerre qu'on n'a pas voulu voir, c'est cette guerre économique mondiale entre Américains, Chinois et peut-être aussi Russes. Et vous le dites concrètement, le monde est en train de basculer, mais le temps semble s'être arrêté dans l'hexagone. Vous avez cette impression, Bertrand Badie ?
Effectivement, on voit bien en ce moment avec la crise ukrainienne, avec le conflit ukrainien, comment on est en train de découvrir une autre phase de la guerre et une autre face des relations internationales. C'est-à-dire que Poutine, qui est, je dirais, un impérialiste au sens étymologique du terme le plus classique qui soit, néglige le paramètre économique. Or, si bataille décisive il y a, mais alors ce n'est plus qu'une image, ça ne correspond pas à l'origine même du concept, c'est sur le plan économique qu'elle va se jouer. Le monde en général, les Occidentaux en particulier, ont manié la contradiction, c'est-à-dire marginalisé la Russie politiquement et ont construit des liens d'interdépendance économique. C'est extrêmement dangereux de faire les deux en même temps. Voilà un bel exemple d'en même temps. C'est-à-dire dépendre de plus en plus de l'énergie et des matières premières livrées par la Russie et en même temps expliquer aux Russes qu'ils seront mieux à jouer en seconde division qu'en première division.
Mais c'était, pardon, je vous interromps, davantage le cas de l'Allemagne plus que de la France. L'Allemagne qui se trouve quand même dans un état de dépendance vis-à-vis de la Russie qui est largement supérieur au nôtre.
Tout à fait, tout à fait. Bon, ceci dit, je disais tout à l'heure que les phénomènes sont systémiques, c'est-à-dire que la France, d'un certain point de vue, se trouve entravé par la dépendance économique de l'Allemagne, son partenaire, membre de l'Union européenne. Tout ceci fonctionne ensemble. Et la France n'a pas du tout renoncé aux échanges avec la Russie. C'est même en Europe le premier partenaire commercial de la Russie, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a là quelque chose qui est significatif de ce à quoi renvoyait votre question. À savoir qu'il y a deux cerveaux. Il y a un cerveau économique et un cerveau politique. Et on n'a pas su véritablement faire le lien. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue ? Il se joue une réplique à l'invasion russe en Ukraine, qui est de dire, si vous persistez dans cette politique, nous vous excluons de la mondialisation. Ce qui est quand même quelque chose de tout à fait inédit, d'abord, de tout à fait inconnu dans la chronique des relations internationales, dont on ne sait pas si ça va fonctionner, qui risque d'avoir assez peu d'effet sur le cerveau poutinien qui ne connaît que le politique et qui dit « bon, si on a des problèmes économiques, tant pis, c'est pas mon affaire ».
Et la Chine pour lui porter secours
Éventuellement, oui, mais il faut faire attention parce que les rapports avec la Chine, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. Mais vous avez raison, il y a des substituts. Le problème de la mondialisation, c'est qu'elle rend chaque acteur plus vulnérable qu'autrefois sur le plan économique, mais lui offre en même temps la chance des contournements. La mondialisation permet toujours de contourner. On l'a vu avec l'Iran, on l'a vu avec la Chine, avec la Corée du Nord, on le voit maintenant avec la Russie. Mais effectivement, je rejoins ce que disait Marc Andevel il y a un instant, c'est-à-dire que nous n'avons pas vu venir le coup puisque nous voulons continuer à concilier une diplomatie de puissance, ce qui, par parenthèse, mériterait définition, parce que je ne sais plus ce que ça veut dire aujourd'hui, avec une diplomatie de mondialisation. On essayait de faire les deux en même temps. Or, l'une dément l'autre. Et ça, c'est probablement une des grandes faiblesses de la politique étrangère française, parce que la France, elle a le syndrome de Louis XIV, c'est-à-dire cette idée que son rôle historique, c'est de dominer, d'organiser, de parrainer l'ordre international. Le problème, c'est que c'est fini ce temps-là et qu'on est passé à une logique systémique où ce parrainage n'est viable par aucun acteur, ni la France, ni les États-Unis, ni la Russie. Ni... Et ça, ce n'est pratiquement pas perçu, sauf un peu par... ces nouvelles puissances qui ont été amputées de leurs fonctions militaires parce qu'elles ont été défaites lors de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'Allemagne et le Japon. Et finalement, dans le petit jeu des contradictions, l'Allemagne se trouve maintenant face à une autre contradiction. C'est-à-dire l'Allemagne est entrée très tôt dans une diplomatie mondialisée, on l'a vu, par l'importance de son insertion dans le commerce mondial, par son refus d'utiliser le levier militaire, par cette vision très multilatéraliste et globalisante des choses, un peu comme le Japon aussi, un peu comme d'autres pays, comme la Corée du Sud, etc., pour d'autres raisons. Mais maintenant, dans la crise actuelle, on voit que l'Allemagne a un réflexe de remilitarisation qui vient même invalider ce diagnostic plus lucide que faisaient les Allemands de la nouvelle situation mondiale. Donc, on est dans une situation de contradiction. C'est souvent comme ça en période de crise. Faudra voir s'il y a, ce que j'espère, une post-crise, comment les choses reviendront en l'état antérieur, ou alors si cet élan de redécouverte d'une diplomatie va être brisé et qu'on va à nouveau assister au retour d'un ordre mondial, ce que je ne crois pas, parce que de toute façon, il ne pourra plus jamais s'imposer, celui-là.
Alors, la remilitarisation de l'Allemagne, c'est 100 milliards d'euros qui ont été annoncés tout récemment. Alors, Marc Andevelde, deux minutes avant la fin de la première partie de l'émission, mais je vous promets, on redémarrera avec vous la deuxième partie. Est-ce que cette crise russo-ukrainienne, comme Bertrand Badi vient de le dire, va permettre et va contribuer à une sorte de réveil de la France sur sa situation aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan technologique? Votre ouvrage est assez vertigineux, Marc Andevel, dans le constat que vous faites de notre désindustrialisation et des priorités françaises qui n'ont pas été celles de nos voisins. Enfin bref, d'une certaine manière, la France a perdu sa boussole.
Oui, la France a perdu sa boussole. Et pour rebondir sur ce que disait Bertrand Badi sur la contradiction entre business et diplomatie aujourd'hui dans la globalisation, la France a oublié parfois les questions d'intendance, souvent, et notamment les questions stratégiques également et les questions énergétique, parce qu'on parle des relations compliquées avec la Russie. Il y a quand même la présence du groupe pétrolier Total allié aux Russes Novatek par rapport au gaz GNL en Russie. On l'oublie souvent. Les contradictions d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est qu'il s'est opposé très tôt au projet de gazoduc Nord Stream 2 et pas forcément dans un alignement américain, mais davantage en opposition à l'Allemagne. Et donc, en fait, on a trouvé dans ce dialogue et dans ces différences entre la France et la Russie, la question du business et de l'énergie a été centrale dans les difficultés qu'Emmanuel Macron a pu avoir. Et même si la France dispose de l'énergie nucléaire pour son électricité, là aussi, il y a eu une difficulté pour les Français, c'est que finalement, je parlais tout à l'heure de l'isolement de la France au niveau européen, les Européens, sur le plan stratégique et énergétique, sont en réalité divisés. Ils n'ont pas choisi les mêmes options ces dernières années. L'Allemagne a voulu sortir unilatéralement du nucléaire. Aujourd'hui, l'Allemagne décide de réarmer unilatéralement aussi. Et donc, ça pose beaucoup de questions sur l'idée même que Emmanuel Macron a d'une puissance européenne.
On poursuit dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve Marc Andevel et Bertrand Badi après le journal. À tout de suite.
Priorité géopolitique. Marie-France Chatin.
La France est-elle perdue sur le plan géopolitique? Nous retrouvons nos invités Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po, auteur d'une trentaine d'ouvrages. Le dernier, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, paru chez Odile Jacob. Et Marc Andveld, journaliste d'investigation, auteur de L'emprise de la France sous influence, paru aux éditions du Seuil. On a terminé, Marc Andveld, la première partie de l'émission sur cette notion de contradiction qu'évoquait Bertrand Badie, sur laquelle vous rebondissiez entre business et politique. Vous le citez dans votre ouvrage et vous en faites un large développement, bien sûr. C'est la guerre économique mondiale à laquelle on assiste aujourd'hui, qui est technologique aussi. C'est une guerre que les États-Unis, qui pourtant sont supposés être nos alliés, pratiquent depuis une trentaine d'années, notamment au travers de la loi d'extraterritorialité que les États-Unis savent manier de façon permanente à leur avantage. On a le sentiment, à lire votre livre, que finalement la France, et on parlera du bilan diplomatique avec vous, Bertrand Badie, du quinquennat d'Emmanuel Macron et de la place de la France dans le monde, on a le sentiment qu'on est passé à côté de beaucoup de choses et surtout qu'on a laissé filer. Alors, vous évoquez un certain nombre de nos industries stratégiques qui ont été et qui sont au cœur d'une guerre économique brutale face aux États-Unis, à la Chine et à la Russie. C'est Airbus, Alstom, Areva, EDF. Vous dressez un bilan particulièrement alarmant.
Oui, parce qu'en fait, pour rebondir sur la discussion de tout à l'heure, nos élites économiques et politiques, au-delà même de la personne d'Emmanuel Macron, parce qu'encore une fois, mon livre n'est pas uniquement centré sur l'actuel président de la République.
Mais sur la France en général.
Mais sur la France en général et sur une sorte de bilan depuis 30 ans de sa position au niveau international et au niveau économique et industriel. Et effectivement, nos élites ont globalement été dans l'idée d'une mondialisation heureuse qui serait toujours gagnante-gagnante pour la France ou pour l'Occident. Et justement, là, on assiste à un véritable basculement du monde à travers l'émergence de puissances régionales. Bon, ça, Bertrand m'a dit, ça connaît ça par cœur, bien évidemment, que ce soit des superpuissants comme la Chine aujourd'hui ou d'autres. Et dans ce contexte-là, la France, finalement, sur un plan économique, s'est aperçue un peu tardivement qu'elle n'avait pas d'alliés, qu'elle n'avait que des concurrents. Et c'est à la fois un phénomène relativement ancien, parce que la guerre économique menée par les États-Unis a été initiée au milieu des années 90. Elle a été renforcée après la crise financière de 2008, y compris par Barack Obama. C'est passé à travers l'extraterritorialité du droit américain, de lutte contre la corruption, qui est en réalité une manière d'instrumentaliser les questions de corruption à l'encontre de grands groupes industriels qui sont concurrents des groupes américains. Je reviens effectivement assez longuement sur l'affaire Alstom, dont on a largement parlé, mais j'apporte des nouveaux éléments sur ce sujet-là. J'évoque effectivement le dossier Airbus, parce que Airbus, il y a 4-5 ans, a été attaqué par la justice américaine également. Et donc, à travers tous ces exemples-là, je montre quoi ? Je montre par exemple que sur la question, la thématique extrêmement importante du renseignement, le renseignement français, ces dernières années, s'est focalisé principalement sur la guerre contre le terrorisme. C'est ce que leur demandaient les différents responsables politiques aux différents services de renseignement. Ce n'est que très récemment que le pouvoir politique, en l'occurrence Emmanuel Macron, a demandé à nos services de renseignement de se pencher également sur la question du renseignement économique, même parfois d'une manière offensive et pas uniquement défensive. Et donc, il y a un constat que je livre à travers l'enquête. Hein. C'est très sourcé, factuel, et c'est presque même parfois désespérant, tellement il y a de faits allant dans un certain sens. C'est que la France s'est désarmée, elle n'a cessé de se désarmer parce qu'elle est restée au niveau des grands principes, Louis XIVien, on va dire. Elle s'est crue encore une puissance éternelle, on va dire ça comme ça. Et en réalité, petit à petit, à la fois par idéologie, par absence de choix stratégique parfois, quand je dis idéologie, par exemple, c'est l'idée d'entreprise sans usine, hein, le fabless en anglais. Donc, par exemple, il y a un dossier emblématique entre tous, je pense, c'est par exemple c'est le dossier Alcatel, qui était géant des télécommunications français dans les années 90, qui était leader sur la question des réseaux. Et Alcatel, finalement, a été petit à petit démembré, et pas uniquement parce que les Américains ont attaqué Alcatel, c'est parce que les dirigeants d'Alcatel et l'État français a laissé, finalement, la plupart des activités productives d'Alcatel être externalisées en Chine. Et petit à petit, Alcatel a perdu sa substantifique moelle, jusqu'à maintenant être contrôlé par le Finlandais Nokia. Et aujourd'hui, dans le débat public français, se pose la question des ingérences étrangères, notamment des superpuissances. Je pense là, en l'occurrence à la Chine avec le géant des télécommunications Huawei. Et en réalité, quand on regarde le temps un peu plus long, on s'aperçoit qu'on s'est totalement désarmé en laissant en perdition un groupe stratégique comme Alcatel. Et puis maintenant, on s'étonne que Huawei est sur le marché des télécommunications et peut poser une question de sécurité nationale. Or, dans cette histoire, sur le plan industriel, qui est finalement assez tragique, de mon point de vue, et désespérant, oui, la France a péché par naïveté, par laisser-faire. Et sur Alcatel, par exemple, un point quoi précis pour rendre plus concret les choses. Quand le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, ministre de l'économie en 2015 de François Hollande, accepte la vente d'Alcatel à Nokia, il oublie d'une certaine manière, même si soi-disant il y a certains éléments de précision, il oublie que l'une des pépites d'Alcatel encore, c'est une filiale qui s'occupe des câbles sous-marins stratégiques dans le développement et le déploiement d'Internet au niveau mondial. Or, ça permettait à la France d'avoir un avantage comparatif de maîtriser cette technique-là. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, au moins au niveau actionnarial, la France a perdu la maîtrise directe de ces technologies-là. Il y a toujours l'usine à Calais, mais ça, c'est un élément parmi d'autres qui montre que finalement, il n'y a pas de cohérence d'ensemble, il n'y a pas de réflexion d'ensemble. Et on réfléchit par silos encore. C'est-à-dire, on met d'un côté, il y aurait les questions diplomatiques, et de l'autre côté, on laisserait faire le marché, les acteurs du monde économique, indépendamment d'ailleurs des allers-retours et des mélanges des genres privés-publics que je dénonce d'ailleurs à travers l'enquête également. Et le fait que, comme il n'y a à la fois pas de vision d'ensemble, mais également énormément d'interférences privées-publiques, et où finalement, et ça on le retrouve dans plein d'autres pays, hein, notamment aux États-Unis, mais pas que, où finalement les intérêts privés priment de plus en plus sur les intérêts stratégiques des États et les intérêts diplomatiques des États. Et ça explique aussi ce mélange des genres, très néolibéral de ce point de vue-là, ce mélange des genres explique aussi beaucoup l'inertie et l'absence de réflexion globale sur les stratégies que la France devrait déployer pour subsister, on va dire, dans ce monde de concurrence.
Oui, parce que ce que vous évoquez, bien sûr, c'est dans ce laisser-faire français, il y a aussi effectivement beaucoup d'intérêts privés en jeu. Vous citez notamment l'exemple de la vente d'Alstom. Enfin, il y a quand même tout un nombre de personnalités en France qui se sont remplit les poches au détriment de la place de la France sur tous ces domaines. Bertrand Badie, je ne sais pas si vous souhaitez réagir là-dessus, mais j'ai presque envie de dire que Marc Andvel nous a fait un pont avec la question des câbles sous-marins, de l'Afrique aussi. Si on devait faire un bilan diplomatique de la politique étrangère d'Emmanuel Macron, je l'ai évoqué en introduction de la première partie, reculade stratégique au Mali, la tragédie bien sûr en Ukraine, on en a parlé. Après, les échecs au Liban, on en parlera avec vous, Marc Andvel, en Libye ou en Algérie, et puis, bien sûr, l'enlisement au Sahel. Votre regard ?
J'aurais envie de faire écho à ce que disait Marc Andvel il y a un moment sur le rapport à la mondialisation. Je pense qu'effectivement, la France, comme les États-Unis d'ailleurs, ont été victimes d'une vieille arrogance diplomatique, considérant qu'à partir du moment où on a la puissance, la mondialisation se pliera à ce jeu. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine a été l'un des rares pays, avec les émergents, mais la Chine surtout, à avoir la posture inverse, qui consiste à dire la mondialisation, c'est une chance pour conquérir un statut dans l'ordre international qui repose sur autre chose que la vieille rente de puissance. Et la Chine a gagné. Et c'est la raison pour laquelle vous avez aux États-Unis, comme en France, ces réflexes anti-mondialisation de type national populiste, souverainiste et tout ce qui s'ensuit. Ça me permet de faire le pont avec ce que vous disiez. C'est-à-dire que dans ce bilan, vous parlez de reculade stratégique au Mali. Non, je crois qu'il faut employer les vrais termes. Il y a une défaite de la France au Sahel. C'est une défaite. Et une défaite grave parce qu'elle était évitable, d'une part, et parce que, de toute manière, elle marque la fin d'un monde. C'est-à-dire, on n'a pas suffisamment souligné, et puis avec la crise ukrainienne actuellement, plus personne ne s'y intéresse, la gravité de l'échec français en Afrique et d'une façon générale dans le Sud. C'est-à-dire, j'inclus là aussi les émergents d'Asie et d'Amérique latine. C'est-à-dire cette idée selon laquelle il y a une mission occidentale et plus particulièrement française pour mener et gérer et organiser le monde et cet attachement à une vision verticale des relations internationales. Et là encore, on n'a pas vu venir la mondialisation. La mondialisation casse la verticalité et crée de l'horizontalité. C'est-à-dire on ne gagne dans la mondialisation que si on sait jouer la carte du partenariat et non celle de la tutelle. L'échec de la France en Afrique est grave, d'abord parce qu'elle nous coupe de ce continent. Moi, j'y étais encore la semaine dernière et j'ai été effrayé et peiné en même temps de voir le vent de francophobie qui est en train de se développer et qui débouche sur une occidentalophobie, voire avoir, si vous me passez l'expression affreuse, de nordophobie. C'est-à-dire, les Africains, bon, je vois par exemple mes collègues universitaires, se font aucune illusion sur la Russie, mais disent « Ah, la Chine, c'est différent, elle ne nous parle pas le même langage. » Et c'est lié probablement à cette différence de soi stratégique, la Chine ne s'occupant pas des conflits en Afrique, ne cherchant pas à les gérer, ou ce que vous voulez. Et on voit bien se profiler un nouvel ordre international. À cet échec de la France en Afrique, on peut ajouter l'exemple du Liban, vous avez tout à fait raison, il y a un changement de logiciel qui devient absolument nécessaire et indispensable. Que d'un certain point de vue, Emmanuel Macron avait annoncé, et c'est pour ça qu'il y a une certaine frustration. Rappelez-vous ces deux discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, septembre 2017, septembre 2018, où il expliquait que la solution était dans le multilatéralisme. Et c'était bien qu'un Français dise ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le berceau du multilatéralisme, c'est la France, c'est Léon Bourgeois, c'est Aristide Briand, beaucoup plus que Wilson. Hein, ça, c'est un mythe. Wilson n'a fait que mettre en musique quelque chose qui existait déjà et auxquels les États-Unis ont toujours été réticents. Ce discours d'hymne au multilatéralisme n'a jamais été véritablement suivi des faits. Le deuxième grand enjeu de la politique internationale aujourd'hui, c'est la sécurité globale, c'est-à-dire sécurité sanitaire, sécurité alimentaire, sécurité climatique. Là, la diplomatie française, comme les autres diplomaties occidentales, se sont laissées guider par le vieux mythe de l'intérêt national. Et c'est là une autre réforme à établir dans notre grammaire. Et là, de ce point de vue-là, les quinquennats qui se sont succédés n'ont rien apporté. Il faut comprendre aujourd'hui que l'intérêt national, il est soumis à l'intérêt global. La France, la société française, ne vivra que si véritablement elle fait progresser cet intérêt global, c'est-à-dire lutte contre les risques sanitaires, les risques alimentaires, les risques climatiques. De ce point de vue-là, le bilan est très maigre. Il y a un problème de réinvention. Et de ce point de vue-là, certains autres sont un peu mieux, notamment l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud. Donc il y a là ce défaut de logiciel qui se retrouve d'un certain point de vue pour l'Europe. C'est exactement la même chose en modèle réduit, c'est-à-dire à l'échelle de l'Europe, la France a fait de beaux discours sur la nécessité de réinventer l'Europe, discours d'Athènes, discours de Strasbourg, discours de la Sorbonne, etc. Mais en fait, la France continue un peu à agacer ses partenaires européens en disant « moi je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et il vous appartient de nous suivre ». C'est-à-dire que l'apprentissage du partenariat à la seule échelle continentale ne se fait pas. Et c'est ça qui me fait peur, il y a toujours cette idée de la France qui a un rôle. J'entendais un ministre qu'on accable beaucoup, donc par charité je ne le citerai pas, qui disait « mais la France s'en sortira parce qu'il y a le génie français, etc. » Quand on entend ce genre de sornette en Italie, en Lituanie ou en Irlande, eh bien, croyez-moi, on est mal à l'aise.
Alors, génie français, en tout cas, à lire votre livre, Marc Andevel, ce qu'on ressent, c'est finalement le constat d'un énorme gâchis. Vous en avez un petit peu parlé précédemment. Alors, échec français en Afrique, on peut parler aussi de ce quinquennat ou de cette présidence très personnelle et très verticale, finalement, d'une certaine manière, malgré cette volonté de multilatéralisme du président Macron, avec là aussi la cellule diplomatique qui s'est complètement resserrée à l'Élysée au détriment du Quai d'Orsay. C'est dans ce couple que vous évoquez, enfin ce couple de travail entre Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, et Emmanuel Macron. Alors, échec français en Afrique, vous en avez aussi tout un chapitre en évoquant l'affaire Bolloré. Finalement, les ventes actuellement de tous les avoirs de M. Bolloré en Afrique, vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus.
Alors oui, effectivement, dans le livre, il y a tout un chapitre sur Vincent Bolloré et son groupe. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert que l'une des raisons des difficultés, on va dire, de ce que la presse a dépeint comme la guerre entre Bolloré et l'Élysée provient du terrain africain. Pour quelle raison ? En réalité, c'est parce que Bolloré s'est senti, là pour le coup, pas soutenu par l'Élysée au début de son quinquennat, parce qu'il a visé très vite le principal collaborateur d'Emmanuel Macron, secrétaire général à l'Élysée, Alexis Kohler, comme vous l'avez rappelé, parce qu'Alexis Kohler, sa famille est propriétaire et gérante d'un grand armateur mondial qui s'appelle MSC. Et MSC, épilogue de cette guerre, on l'a appris fin décembre, a entamé des négociations exclusives pour acheter les activités africaines du groupe Bolloré. Et donc on peut se demander si, après la guerre entre guillemets entre Bolloré et l'Élysée, on est dans une forme d'armistice. Mais dans tous les cas, ces tractations économiques, ces enjeux privés, comme je les décrivais tout à l'heure, ce mélange des genres, ces conflits d'intérêts également au plus haut niveau de l'État, se fait sur le dos, là pour le coup, des États africains, des gouvernants et des sociétés civiles. C'est-à-dire que cette décision de vendre unilatéralement, on pourrait dire que c'est qu'une affaire de business, mais en réalité, le groupe Bolloré a toujours été dans une zone grise entre la diplomatie française et le pouvoir français et leur inscription territoriale en Afrique. En fait, je sais que cette vente en cours, toujours, est relativement mal vécu par, que ce soit les gouvernants africains ou même parfois par les sociétés civiles, parce qu'elles n'ont pas du tout été mises dans la boucle. Par ailleurs, ça montre encore une fois la stratégie à courte vue de la France. On peut se poser beaucoup de questions sur d'autres sujets afférents. Vous évoquiez le Mali. Mais la question du Mali, la question du Tchad, en fait, d'une certaine manière, qu'elle y est. Parce que l'affaiblissement de la France au Mali est lié également au fait que Emmanuel Macron a eu un rôle assez intrigant après la mort de Déby au Tchad. Il y a tout un épisode que je relate dans le livre qui est effectivement aussi le dossier libyen. Et dans tous ces dossiers-là, Emmanuel Macron, il a, on va dire, mis en avant une diplomatie parallèle la plupart du temps, contournant le Quai d'Orsay. Il a activé soit des vieux réseaux de la France-Afrique, contrairement à ses dires et ses beaux discours, ou au contraire des réseaux, on va dire, parallèles à cette France-Afrique-là, plus internationaux, mais qui sont d'abord des réseaux d'affaires. Et donc là aussi, il y a tout un mélange des genres qui a abîmé finalement l'image de la France. Et ça fait partie, on parlait de défaite tout à l'heure, mais du passif du bilan d'Emmanuel Macron, qui a multiplié les mauvais points dans ses relations avec les États africains, avec beaucoup d'arrogance aussi. Il s'est à la fois désintéressé des enjeux proprement stratégiques. Il s'est parfois comporté comme un banquier d'affaires, qu'il était, notamment en coulisses. Et on a l'impression qu'il a eu du mal à développer, là pour le coup, une ambition pour la France qui serait respectueuse et en dialogue avec les partenaires africains. Effectivement, il a suscité en début de quinquennat pas mal d'espoir et finalement, ces espoirs ont été déçus. C'est le paradoxe d'Emmanuel Macron. Vous évoquiez tout à l'heure, Bertrand m'a dit, les beaux discours. C'est vrai que si on se limite aux discours d'Emmanuel Macron, on est souvent séduit par fois. Hein. En plus, il parle bien, il évoque de grands concepts, il évoque et il n'hésite pas à être parfois dans la rupture, justement, dans le discours. Je rajouterais, par exemple, une interview qui a été assez tonitruante, une interview qu'il a donnée en novembre ou décembre 2019, dans mon souvenir, à The Economist, l'hebdomadaire britannique, où il parlait d'état de mort cérébrale de l'OTAN, mais il évoquait également l'éclatement du bloc occidental. Et derrière ça, je dirais qu'il fait un bon diagnostic par rapport aux analyses depuis le début de l'émission. Donc, il est dans le bon diagnostic, il est dans des bonnes intuitions, mais en réalité, ensuite, il n'a pas de stratégie pour mettre une autre musique en œuvre. Il s'inscrit en réalité d'une manière très verticale, comme ça a été dit, très occidentaliste, parfois même assez néocolonialiste du côté du continent africain, par rapport même à d'autres présidents français. Je pourrais penser à Jacques Chirac, par exemple, qui était à la fois dans une France-Afrique habituelle, mais de l'autre côté, qui avait au moins un intérêt sur certains aspects culturels, par exemple. Emmanuel Macron est assez distant de tous ces éléments-là. Aussi parce qu'il manque aussi de culture internationale, de par son jeune âge, de par son parcours. Finalement, il connaît avant tout les cénacles de la mondialisation, pour le coup, là, occidentale. Et ça fait partie des freins qu'il a eus dans son action de la France à l'étranger. Il a finalement peu utilisé les questions de soft power. C'est d'abord le business qui a primé, avant toute chose. Or, je pense que les sociétés civiles dans leur ensemble, mais même les gouvernants, y compris les nouvelles générations, attendent autre chose ou pourraient attendre autre chose de la France.
Alors, manque de culture internationale. On terminera là-dessus. On peut rappeler que notamment en 2010, mais avant qu'il ne soit président de la République, Emmanuel Macron avait suggéré que la France se débarrasse du nucléaire parce que finalement ça coûtait très cher. Bertrand Badie, en guise de conclusion, mais très rapidement.
Force de dissuasion. On a quand même le meilleur corps diplomatique du monde. Et ce qui est étrange, c'est que ce quinquennat se termine sur l'annonce de sa suppression. Une politique étrangère sans instrument humain n'en sera jamais une. C'est un paradoxe que je propose à nos auditeurs de méditer.
Merci Bertrand Badie. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Sciences Po, auteur d'une trentaine d'ouvrages. Le dernier, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, paru aux éditions Odile Jacob. Et Marc Anveld, journaliste d'investigation, auteur de L'emprise, la France sous influence, paru aux éditions du Seuil géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi.